1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Super. Vous allez bien? Je suis JD, un des pasteurs de cette église, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, on a un gros programme. On va couvrir 2000 ans d'histoire. On va voir trois des héros de la foi. Et on va continuer ce qu'on a démarré la dernière fois, à savoir la chute. Je vais juste prier avant tout ça. Notre Père, on se réjouit d'ouvrir la parole ensemble. On est reconnaissant de pouvoir le faire librement. Je prie que tu gardes mes paroles. Je prie que tu donnes à mes frères, mes sœurs, un cœur bien disposé, une oreille attentive, du discernement aussi pour faire le tri dans ce que je vais dire. Et merci Seigneur, parce que tu es avec nous dans ce moment-là. Amen. Alors, si vous vous souvenez bien, on était en Genèse 3, on avait le péché originel avec Adam et Ève. Et pour se figurer un petit peu ce que ça donnait, vous pouvez avoir l'image d'une falaise où on était sur le plateau avec Dieu et pouf, on est tombé. Et on a quitté la présence de Dieu. Et depuis ce temps-là, on n'est plus dans la présence de Dieu, c'est la chute. Et dans le texte qu'on va voir, on n'a pas encore touché le sol. Vous pouvez avoir cette image d'une falaise. Si Genèse 1 et 2 nous décrivaient le plan de Dieu, son intention du cœur, pour nous dire ce que ça pouvait donner d'être avec lui, Genèse 3 nous décrivait comment est-ce qu'on s'est rapproché du bord et fou, on a chuté. Et là, on va lire Genèse 4 et 5. Et en fait, c'est la suite, c'est les conséquences du fait qu'on soit séparé de Dieu. C'est ce qu'on va lire, vous pouvez prendre déjà vos Bibles, donc Genèse 4, c'est tout au début de vos Bibles. On va voir Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'est les enfants d'Adam et Ève, ce sont les premiers êtres humains qui nous ressemblent vraiment. Alors je dis ça, c'est très important dans notre démarche de foi de nous identifier à Adam et Ève, évidemment. Il y a beaucoup de choses à aller chercher dans notre démarche de foi quand on s'identifie à Adam et Ève. Mais Caïn et Abel, ils nous ressemblent étrangement. Pourquoi ? Parce que c'est les premiers êtres humains à ne pas avoir connu cette communion avec Dieu. Adam et Ève ont connu ça. Caïn et Abel n'ont pas connu ça, comme nous. C'est les premiers à être nés dans un monde où le péché existe, comme nous. Et c'est probablement les premiers à avoir un nombril, comme nous aussi. Ça n'a aucune valeur théologique, mais je voulais juste le souligner. Il nous ressemble. On est aussi, nous, séparés de Dieu. On cherche à être acceptés par Dieu à nouveau depuis qu'on a quitté cette falaise. Et en fait, c'est une démarche relativement universelle. Si vous regardez, si on enlève la notion de retrouver la relation avec Dieu, en fait, ce qu'on voit que l'homme a profondément dans le cœur, c'est une recherche de la paix. En fait, il y a quelque chose qui est dérangé, il y a quelque chose qui tourne par rond, il y a un tourment qui est là. Et la démarche globale de l'homme, c'est de rechercher à nouveau à être en paix. Et qu'on connaisse Dieu ou pas, on a cette démarche-là, en fait. L'athéisme moderne, il va dans cette direction, il ne va pas chercher cette paix auprès de Dieu. Souvent, il va la chercher un peu à l'intérieur, en s'appuyant un peu sur les philosophies orientales. Mais la démarche, c'est la même, il y a un truc qui tourne par rond. On veut retrouver cette paix. On a quitté la falaise, on veut retourner sur le plateau, là-haut. Les religions, elles, proposent souvent de retrouver la paix avec l'être divin. La religion chrétienne propose aussi ça, mais la réponse, elle est totalement différente de ce que vous trouverez ailleurs. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand on est séparé de Dieu dans un monde rempli de péchés, puisque c'est l'état post-chute, on va voir comment être en paix à nouveau avec Dieu. Vous savez, dans une guerre ou même dans un match de sport, on a un adversaire. À partir du moment où on a un adversaire, on se renseigne sur son fonctionnement, sur sa stratégie, sa tactique. Et c'est bon pour nous de savoir comment est-ce que l'autre fonctionne si on veut avoir le dessus sur lui. Et je pense que dans la vie chrétienne, on ne fait pas suffisamment ça. On ne regarde pas suffisamment le fonctionnement du péché pour se dire, ben là, il fonctionne comme ça le péché, je veux éviter ça. Ça ne doit pas être notre préoccupation première, mais on ne peut pas faire l'économie de de pas savoir comment fonctionne le péché. En théologie, on a l'habitude de définir le péché avec les trois ennemis spirituels, le diable, la chair et le monde. Qui a déjà entendu le péché décrit comme ça ? Ça vous parle ? Un petit peu, ouais. Le diable, la chair et le monde, on appelle ça les ennemis spirituels, et vous l'avez entendu, dans Genèse 3, on avait un gros focus sur le diable. Souvent, ils sont évidemment très entremêlés, hein. C'est pas soit l'un, soit l'autre, dans ce qui se passe dans nos vies, dans le péché. Mais Genèse 3, bah, il s'était moins entremêlé, puisque le monde n'était pas là. Par exemple, pour Adam et Ève, le monde n'était pas là. Et donc, Genèse 3 fait un gros focus sur le diable. Il y a le serpent dans le jardin. Voilà. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la chair et le monde. Genèse 4 et 5 parlent de la chair et du monde et du fonctionnement du péché vis-à-vis de ces deux ennemis spirituels. Comment ça fonctionne à l'intérieur pour que le péché existe ? Ça, c'est la chair. Comment ça fonctionne à l'extérieur pour que le péché existe et prolifère ? C'est l'influence du monde. Alors, on va lire. Je n'ai pas affiché le texte. Suivez avec moi. Tout le monde a une Bible ? Il y a des Bibles qui sont sur les chaises. Servez-vous. Si vous n'avez pas de Bible, peut-être levez la main et peut-être que quelqu'un peut en sortir quelques autres. Mais voilà, on est dans Genèse 4. Et je vais lire Genèse 4, 1 à 15 dans un premier temps. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources et tu seras errant, vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché, loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Jusqu'ici, on s'arrête. Dans un premier temps... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on lit cette histoire avec Caïn et Abel, on est un peu mal à l'aise. Il y a un truc qui gratte parce qu'en fait, ce Caïn, on ne comprend pas. Il y a une histoire. Enfin, on a l'impression qu'il y a un truc un peu injuste. On a envie de comprendre parce qu'on se dit, zut, je pourrais presque être à la place de Caïn. Je ne comprends pas ce qui se passe et pourquoi est-ce que... En fait, on voit Caïn qui est là et qui a envie de plaire à l'Éternel. Il fait des efforts pour ça. Il fait une belle offrande. Et derrière, on a l'impression que Dieu fait un choix, que les conséquences du choix, c'est que bah, du coup, Abel est béni, Caïn n'est pas béni, et que du coup, Caïn développe une jalousie, et que bah, il voit des bénédictions chez son frère, et voilà, il est jaloux. Et je ne sais pas si, décrit comme ça, ça vous parle, mais moi, je dis Team Caïn, ça me parle beaucoup, ce truc-là. Et je ne comprends pas, en première lecture, qu'est-ce qui se passe ici. Alors, ça nous pose vraiment la question, pourquoi est-ce que Dieu préfère l'offrande de Abel ? C'est ça la question que nous pose le texte. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce Caïn, pour que son offrande ne soit pas agréée de la même manière ? Et on est mal à l'aise avec ce texte et on veut résoudre parce qu'on se dit, ben, ça pourrait m'arriver. En fait, qu'est-ce qu'il pouvait savoir, Caïn, que Dieu préférait le sacrifice de bêtes avec leur graisse? Ça, c'est Moïse, c'est 7 ou 10 siècles plus tard. Comment pouvait-il le savoir? Alors, on va décortiquer un petit peu, décortiquer pour comprendre ce qui se passe ici. Caïn semble vouloir être accepté par Dieu. C'est ce qui va... Il nous dit qu'il fait une offrande à Dieu. Donc, il cherche à être agréable à Dieu. C'est ce que nous dit le verset 4. Il cherche le regard favorable de Dieu et ça a un énorme impact sur lui, on le voit. Et comme on le disait en intro, c'est la démarche de l'homme qui soit conscient que Dieu existe ou pas. On cherche cette paix, on cherche à apaiser ce qui est tourmenté. Et ici, Caïn cherche à retrouver, à retourner sur le haut de la falaise, retrouver cette paix. Donc on a un bon désir en apparence, un désir qui semble sincère, mais on doit considérer quelque chose, c'est qu'en fait, on n'est plus sur le même plan, on n'est plus comme Adam et Ève qui avaient cette innocence-là devant Dieu. Et donc, on a besoin de deux choses pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Le premier, c'est on va regarder ce que Dieu dit à Caïn, et le deuxième, on va regarder dans le reste de la Bible ce qu'on sait de Caïn et de Abel. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Il lui dit ceci au verset 7, « Le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Les amis, encore une fois, on a quitté la falaise, on est là, et on a un nouveau colloque. On a un nouveau colloque qui n'est pas très sympa. Il a établi sa demeure sur la devant chez nous. Et son intention, quand Dieu dit « ses désirs se portent vers toi », c'est-à-dire que son inclinaison, son envie, son intention, c'est de venir tout saccager chez nous. Il veut venir, il veut défoncer le salon, éventrer les poubelles, ravager votre chambre. Il veut tout. Son objectif, c'est ça. Sympa le nouveau coloc. Comment on fait avec ça? Maintenant, on va voir la différence entre Caïn et Abel. Le texte, il nous invite à les comparer, ces deux frères. C'est assez clair. La différence entre Caïn et Abel, la Bible n'est pas très verbeuse, on n'a pas beaucoup d'indications sur ces deux frères-là, mais quelques-unes quand même. On peut aller voir dans Hébreux, restez dans Genèse sur vos Bibles, je vais vous afficher Hébreux 11, verset 4. On a une indication au sujet de Abel, écoutez bien. « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. » Par la foi, intéressant. J'ai perdu, c'est par la foi, voilà. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Donc on a une indication que Abel avait la foi et qu'il a été déclaré juste pour cette raison-là. On peut en conclure sans problème que ce n'était pas le cas de Caïn. En fait, Abel, on sait rien dans la Bible. En fait, il est le fils de Adam et Ève. Il était berger, il a fait une offrande et il est mort. En héros de la foi, en fait. Hébreux 11, c'est l'héros de la foi. Il est mort en héros de la foi. Abel avait cette foi. C'était un héros de la foi, son frère n'avait pas cette foi. Qu'est-ce qu'on sait au sujet de Caïn? On n'a pas beaucoup d'indications dans la Bible. On sait, 1 Jean 3, 12 nous dit « N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué ?» Donc, qu'est-ce qui se passe avant qu'il tue son frère? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. C'est intéressant. Donc on a un Caïn qui n'avait pas la foi et qui avait une mauvaise d'agir entre, évidemment, une mauvaise d'agir de tuer son frère, on se doute que c'est plutôt pas trop une bonne idée, mais même avant ça, il avait une mauvaise manière d'agir. Et donc, les amis, on a deux, trois informations ici qui sont intéressantes. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est pas juste croire que Dieu existe. Je ne sais pas si vous avez souvent entendu ça. Est-ce que tu as la foi? Oui, moi je pense que Dieu existe, j'ai la foi. Caïn, il croyait que Dieu existe. Il lui a offert une offrande. S'il ne croit pas que Dieu existe, je ne sais pas ce qu'il fait. Caïn, il croit que Dieu existe, mais c'est largement pas suffisant. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas du tout ça la foi. Ce n'est pas suffisant. Et alors c'est quoi cette foi dont Abel est un héros et que Caïn n'a pas? Ben, c'est une foi que, simplement, Adam et Ève ont pu transmettre à leur fils, Ça a fonctionné pour Abel, ça n'a pas fonctionné pour Caïn. Qu'est-ce que c'est que cette foi que Adam et Ève ont pu transmettre ? Qu'est-ce qu'ils connaissaient, Adam et Ève ? Ils ont connu une relation avec Dieu, belle, paisible, avec plein de bénédictions. Et ils l'ont perdue. Ils l'ont perdue parce qu'ils ont refusé la souveraineté de Dieu. Et ça, dans la foi qu'ils ont transmise à leurs enfants, ils ont dû certainement transmettre ça, en tout cas essayer, et ça a fonctionné avec Abel, transmettre le fait que il y avait un souci. Chez eux, il y avait un souci, ils avaient refusé la souveraineté de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont certainement transmis également à leurs enfants que Dieu a dit à Ève, ta descendance écrasera la tête du serpent. Et donc le secours viendrait de Dieu. Voilà les deux éléments que Adam et Ève ont pu transmettre, qui constituent la foi qu'ils ont pu avoir et qu'ils ont voulu transmettre à leurs enfants. Ça n'a pas fonctionné pour Caïn, ça a fonctionné pour Abel. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise foi, ou le contraire de la foi qu'on peut voir chez Caïn ? C'est quelque chose qui dit « je sais que Dieu existe, cool, je peux choisir moi-même comment me présenter devant Dieu. » Ce n'est pas Dieu qui le choisit, c'est moi qui le choisis. Comment je suis accepté par lui, comment j'ai ce regard favorable, je peux le choisir moi-même et je peux y arriver par moi-même. Vous voyez comment on nie le secours de Dieu, comment on nie la souveraineté de Dieu. Voilà la foi, probablement la pseudo-foi que Caïn avait. Les amis, on ne définit pas nous-mêmes comment on se présente devant Dieu. C'est Dieu qui définit comment on se présente devant lui. C'est le Dieu trois fois saint qui définit comment est-ce que des hommes en rébellion contre lui peuvent se présenter devant lui. Et pour ça, on a besoin de faire la traque dans nos cœurs à tout ce qui ressemblerait à la démarche de Caïn, à définir nous-mêmes comment est-ce qu'on se présente devant Dieu et décider nous-mêmes qu'on mérite le regard favorable de Dieu. Je vous ai fait le tuto du péché. Si vous voulez apprendre à faire, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin d'apprendre, mais en tout cas, ça nous permet de mieux étudier. Faites la traque dans vos cœurs à tout ce qui ressemble à un je mérite. Chaque fois qu'il y a un je mérite devant le Seigneur, c'est les traces de ce mauvais colloque. Il laisse ses chaussettes sales derrière lui, il laisse plein de choses derrière lui, et ses désirs portent sur nous pour dominer sur nous. Et ensuite, l'engrenage va très vite. Maintenant qu'on a qu'on a défini nous-mêmes comment est-ce qu'on se présente devant Dieu, ce qui est juste, maintenant qu'on a défini nous-mêmes ce « je mérite » devant le Seigneur, alors la suite, qu'est-ce qui se passe ? On a l'engrenage du mécontentement qui arrive, les étapes d'après, c'est que des 1, c'est censé être 1, 2, 3, 4. L'engrenage du mécontentement qui arrive, le manuel du péché se déroule, le mécontentement ici se caractérise par la jalousie de Caïn envers son frère, et c'est ce qu'on appelle globalement en fait la convoitise. Vous savez, la convoitise, on l'utilise souvent pour décrire convoiter les richesses, une situation favorable pour quelqu'un, des bénédictions, la convoitise sexuelle. Et tout ça. En fait, la Bible, quand elle utilise le terme convoitise, c'est très 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 large, et ça commence par le mécontentement. Quand il y a du mécontentement dans notre cœur, on peut directement cibler, savoir qu'il y a de la convoitise. À ce moment-là, Dieu dit à Caïn qu'il a un air sombre, ça veut dire qu'il est déjà en train de chuter, il est déjà en train de tomber. Et alors la trajectoire continue, l'engrenage continue, la suite logique du mécontentement, quand on n'obtient pas ce qu'on veut, il y a la colère, et la colère ici, elle finit en meurtre. Les amis, on a besoin de traquer tous les « je mérite » dans nos cœurs, tous les « j'exige » dans nos cœurs, parce que c'est là que prend racine le péché. Dans un monde séparé de Dieu, où le péché il est devenu notre coloc, où il a envie de tout saccager, quel frère est-ce qu'on veut être ? Est-ce qu'on veut être celui qui dit « je mérite » et je choisis seul comment je peux me présenter devant Dieu et il se retrouve seul à dominer sur le péché ? Ou est-ce qu'on est le frère qui reconnaît la souveraineté de Dieu, qui se présente devant Dieu en cherchant quels sont les termes de Dieu et qui offre son offrande avec cette assurance que son secours et l'acceptation, elle vient de Dieu lui-même. L'un et l'autre, ils ont le même colloque, le même que nous, Ils n'ont pas du tout la même manière de traiter avec le colloque. Les conséquences, on l'a lu, la conséquence qui suit, Dieu juge et sanctionne le péché. Là où Adam et Ève étaient chassés loin de Dieu, Caïn, il est chassé loin, loin, loin de Dieu, errant et vagabond sur la terre. Alors on va regarder la suite. La suite, on va lire à partir du verset 16, l'influence du péché venant de l'extérieur, le monde. Je lis à partir du verset 16, je sauterai quelques versets parce que c'est un petit peu long. Je vous dirai, Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Enoch eut pour fils Irad, Irad eut Mehujael, Mehujael eut Methushael et Methushael eut Lémec. Lémec prit deux femmes, l'une s'appela Ada, l'autre Tsila. Ada mit au monde Jabal, il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tsila mit au monde Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec sera 77 fois. » Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi, lui aussi, un fils et l'appela Enoch. C'est alors qu'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Je vais au verset 7. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Enoch. Il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. Saute encore des versets, il y a beaucoup de générations, ils vivent tous 900 ans, ils ont beaucoup d'enfants. Verset 21. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Methusela. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methusela et eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Methusela eut pour fils Lémec. Methusela vécut 782 ans après la naissance de Lémec et eut des fils et des filles. Methusela vécut en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils. Il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que le sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. » Je m'arrête ici. Je pense que ça ne vous a pas échappé, autant le texte qu'on vient de lire sur Caïn et Abel nous invitait à comparer les deux frères, autant ce qu'on vient de lire là, on a deux lignées, et c'est assez flagrant dans le texte que l'auteur veut qu'on compare ces deux lignées. Alors c'est ce qu'on va faire. D'un côté, on a la lignée de Caïn qui s'engage dans le péché, Caïn est vengé 7 fois, Lémec 77 fois. De l'autre, on a la lignée de Seth. Et le texte nous dit que c'est à partir de ce moment-là qu'on fait appel à l'Éternel. C'est tout simplement une manière de dire qu'en fait, c'est des gens qui avaient la foi. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ce fameux Hébreu 11, c'est un chapitre de la Bible où il y a les héros de la foi de l'ancienne alliance. En fait, il y a 17 héros de la foi qui sont cités dans Hébreu 11. Il y en a 3 qui sont dans Genèse 4 et 5. Donc je pense que ça parle de la foi. Et là-dedans, on a des héros de la foi, des gens qui ont été remarquables par leur attachement à l'Éternel. En voyant ces deux lignées qui sont si différentes et qui parlent de foi et de non-foi, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants ? Quels parents on est, on veut être, quand on voit ces deux lignées-là ? On imagine sans problème que Adam et Ève, comme on l'a dit, ils ont voulu transmettre la foi à Caïn, à Abel. Ça ça a fonctionné pour l'un, ça n'a pas fonctionné pour l'autre. Et quand Seth arrive, c'est pas dans le texte, mais j'imagine franchement qu'ils se sont dit, on va revoir un peu nos méthodes d'éducation et la manière dont on transmet la foi, parce qu'on ne peut pas se permettre que ça plante, en fait. Et on imagine sans trop de problèmes que Adam et Ève, ils ont redoublé d'efforts pour transmettre la vraie foi à leur enfant Seth. Les amis, il y a plein de manières de transmettre la foi à nos enfants. Dans notre église, on est bénis, on a un super bibliclub, on a un groupe de jeunes aussi qui est top. Si vous cherchez des manières de servir le Seigneur, ça recrute. On a besoin de gens pour prendre soin dans le bibliclub, soin des jeunes. On a besoin de gens pour s'investir dans le groupe de jeunes. C'est une super manière de le faire. Malgré tout, la responsabilité de transmettre la foi, c'est à la maison, c'est les parents. Ça nous invite à réfléchir comment est-ce qu'on s'implique en tant que parents, quelle foi on transmet, à quoi ressemblent les cultes familiaux, à quoi ça ressemble ma manière de reconnaître mes fautes et ma manière d'être démonstratif envers mes enfants quand je veux lui montrer que j'ai terriblement besoin du Seigneur, quand je suis pas là où je devrais être. Ces deux lignées-là nous alertent là-dessus. Et comme je disais, donc le texte continue et on est invité à les comparer. Dans les deux lignées, on a un Enoch dans chacune des lignées. Et dans chacune des lignées, on a un Lémèque. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le premier Enoch, celui de Caïn? C'est le fils de Caïn. Et Caïn, Dieu lui avait dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Qu'est-ce que fait Enoch? Il s'installe, il pose une ville. Un peu pour faire un pied de nez, un peu comme pour faire un pied de nez au jugement de Dieu, on a l'impression. Et dans la suite, la descendance de Enoch, en fait, on voit qu'il y a tout le développement d'une société. Vous regardez les versets 20 et 20, de 20 à 22. En fait, il y a de l'agriculture, de l'industrie, des arts. En fait, il y a vraiment la description d'une société là qui se développe. Et alors, on ne veut pas du tout dire que la culture et la société, c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas le raccourci qu'on veut faire, pas du tout. Par contre, le texte, là, il nous montre très, très clairement qu'il y a deux écueils possibles quand la société se déploie comme ça et qu'on s'investit et qu'on suit le mouvement de la société. Il y a deux écueils possibles. Le premier, c'est tout simplement de s'accommoder du péché et de rentrer dans le péché, de continuer avec le péché de la même manière que la société le fait. Le deuxième écueil, c'est là on voit que la société tend un petit peu à adoucir, c'est l'impression que ça donne, adoucir l'effet du péché, adoucir le fait d'être loin de Dieu. Un peu comme un alcoolique ou un drogué prendrait sa dose parce qu'il y a un problème et on va le masquer en fait avec quelque chose qui nous occupe l'esprit. Voilà les deux écueils que nous montre ici ce texte. Ça nous pose la question, comment est-ce qu'on s'accommode du péché dans nos vies? Comment est-ce qu'on s'accommode du péché qui nous environne? Le deuxième Enoch, il est dans la lignée de Seth, et lui, il est dit qu'il marche avec Dieu. Et je ne sais pas si ça vous a, si vous avez noté en lisant le texte, mais ce deuxième Enoch, il est, je crois que j'ai oublié des slides, ouais. Ce deuxième Enoch, il part à l'âge de 365 ans, là où tous ses copains, c'est 900 et des brouettes. En fait, il a un tiers de la vie de ses contemporains, et pouf, il part. On se dit, qu'est-ce qu'il a fait, Enoch? Je croyais qu'il marchait avec Dieu, comment ça se fait qu'il part avant, en fait? Il a fait quoi de mal? Les amis, Hébreux 11 le cite comme héros de la foi aussi, et il nous dit qu'il a reçu sa récompense. Et je pense qu'on a besoin de changer de paire de lunettes, parce qu'en fait, ce Enoch, il est dans un monde où il y a le péché, partout. Il est dans un monde où il y a le péché, il faut se le taper 900 et quelques années, ce monde-là. Et en fait, Enoch, il part à un tiers de la vie des autres, bon, c'est quand même 300 ans, mais il part à un tiers de la vie des autres, sans passer par la mort, remonter sur le haut de la falaise, retourner sur le plateau qu'on avait tout à l'heure. Si ce n'est pas une récompense, ça. On se dit, mince, il part à un tiers de la vie. En fait, il part pour le mieux, dans les meilleures conditions, rejoindre le meilleur des mondes. C'est ouf. Je disais aussi, on a deux Lémèques. On a deux Lémèques dans cette lignée. La lignée de Caïn, on a ce Lémèque dont on a déjà parlé, qui est dans l'engrenage de la violence. Il fait justice lui-même, là où il y avait un signe de protection, où Caïn a été vengé sept fois, lui il dit je ferai la justice moi-même 77 fois. Et il est prêt à tuer des enfants, l'engrenage de la violence. Le deuxième, les mecs, c'est celui de Seth, celui à qui on a transmis la foi, celui qui sait que le secours viendra de Dieu. Et ce Lémèque-là, il nomme son fils Noé en disant « Celui-ci nous consolera, il attend d'être consolé, celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » On lui a transmis la foi, il sait que le secours viendra de Dieu et il s'y attend. Dans un monde qui est séparé de Dieu, la société nous propose deux pistes, soit adoucir le péché, soit embrasser le péché, se vautrer dans le péché. Quel Lémèque on veut être, quel Enoch on veut être. Si vous êtes bien dans ce monde, il y a deux solutions. Soit vous avez filé des fringues propres au coloc, et il peut rentrer chez vous et ça va, vous êtes dans une coloc, ça roule, et vous avez fait copain-copain avec le péché, vous avez filé des jolis habits. L'autre solution, c'est que non, vous faites votre possible, il vous embête ce coloc-là, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas, il est toujours là à tambouriner à la porte, mais vous savez qu'un jour, vous avez fait appel à Dieu et vous savez qu'un jour, il ne sera plus là, ce coloc. Un jour, ça ne sera plus cette tentation-là qui sera là en permanence. On a besoin d'avoir un regard aiguisé sur la société, les amis. On a besoin que Dieu nous ouvre, nous donne du discernement sur ce qui nous environne. On a besoin d'être le Lémèque de Seth pour avoir ce discernement-là. On a besoin d'être le Enoch de Seth pour se dire un jour, on sera à nouveau sur le plateau de la falaise. On ne sera plus dans cette chute-là. Donc à travers ces deux lignées, on a vu qu'il y avait des générations et des générations. On a parcouru, on a suivi une petite partie des gens. Il faut avoir en tête qu'à chaque fois, il dit « ils eurent des fils et des filles ». C'est vrai pour toute la lignée de Seth. On imagine que Caïn, dans sa lignée, il y a eu des fils et des filles aussi. Donc ça fait beaucoup de monde à la sortie. On a suivi qu'une petite partie de ces gens-là, ceux à qui on a transmis la foi et que la foi a s'est enracinée correctement. On ne sait pas trop ce que deviennent tous les autres, si ce n'est qu'on a une photo finish, une photo de groupe. En Genèse 6, si vous regardez, on va lire les versets 5 à 8 de Genèse 6. L'Éternel vit, je vais mettre le texte. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. L'Éternel dit : J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà l'influence de la chair pour que se développe le péché en nous. Voilà l'influence du monde pour que le péché s'entretienne et croisse. Et voilà l'engrenage qui mène au jugement. Il est dit que Dieu regrette d'avoir créé l'homme, c'est pas tellement qu'il... Il dit, mince, j'ai fait une erreur. Oups. Le texte nous dit simplement c'est qu'il est triste. Il a le cœur peiné de voir ce gâchis. Caïn et sa lignée, ils ont choisi de faire la paix avec le péché. Abel et la lignée de Seth, ils ont choisi de faire la paix avec Dieu. Les amis, avec qui ont choisi de faire la paix? Est-ce qu'il y a des domaines dans nos vies où on a fait la paix avec le péché? Si on doit décrire la foi cette fois-ci, la foi qui la vraie foi, pas celle de Caïn, Eh bien, cette vraie foi, c'est bien sûr reconnaître que Dieu existe, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi accepter les termes de la justice de Dieu, accepter que c'est lui qui définit comment on se présente devant lui. Et c'est reconnaître qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas à se présenter devant lui correctement. Mais qu'il a prévu, il a promis son secours et qu'il va le donner. Comment est-ce qu'on est à nouveau agréé par Dieu? Comment est-ce qu'on est à nouveau en paix avec Dieu dans un monde rempli de péché, où le péché il est à l'intérieur, où le péché il est à l'extérieur, autour de nous? Ben, les amis, c'est simplement par la foi, cette foi qui fait confiance à Dieu. Bien sûr, on a besoin de connaître le péché, ses stratégies, comment est-ce qu'il fonctionne, mais beaucoup plus que ça, on a besoin de connaître notre Dieu, ce Dieu qui a promis son secours et qui a donné son secours à travers la personne de Jésus. Cette paix, on la connaît parce qu'elle s'est manifestée avec Jésus. On y a accès parce qu'il a tenu sa promesse. Parce que Jésus lui-même est venu nous donner cette paix et qu'on puisse la retrouver avec Dieu. Si vous êtes en paix avec Dieu, si vous êtes disciple de Jésus, Jésus est votre sauveur, Jésus est votre Seigneur, alors je vous invite à participer au repas du Seigneur qu'on va prendre dans le pain et le vin qui est derrière moi. Si vous n'êtes pas disciple du Seigneur, je vous invite simplement à réfléchir avec qui est-ce que vous êtes en train de faire la paix. Est-ce que vous êtes en train de faire la paix avec le Dieu qui vous offre cette paix-là gratuitement? Je vais prier et puis on pourra prendre les éléments qui sont derrière. Père éternel, on a besoin de toi. On a besoin de toi pour nourrir cette foi. On a besoin de toi pour ne pas nous égarer et ne pas avoir des « je mérite » dans nos cœurs. On a besoin de toi pour accepter ta souveraineté, se soumettre à ça. On a besoin de toi pour transmettre une foi à nos enfants. Tu vois combien c'est difficile. On a besoin de toi pour avoir du discernement dans ce monde. Le péché nous environne. On a besoin de toi absolument dans toutes les situations, Seigneur. Je prie que tu sois rapide à nourrir cette foi, à venir à toi, rapide à savoir que on a ce secours en toi, rapide à se dire que, comme Enoch, on sera aussi un jour auprès de toi, et que ce monde qui est rempli de péché, ce péché aussi qui est à l'intérieur de nous, ça ne sera plus le cas, Seigneur. Puisse se réjouir aussi de ça, et que notre foi puisse être nourrie de cette espérance-là. Au nom de Jésus.